rock et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel, l'émission Baroque ou classique, l'art français au XVIIe, en compagnie de Philippe Frétinier. Alors, vous nous avez beaucoup parlé d'art, beaucoup parlé de littérature, d'architecture, de science aussi d'ailleurs. Donc, on a balayé un grand nombre de champs déjà de cette situation de l'art français au XVIIe, qui souvent est donc placée sous le vocable de baroque, vocable que vous n'appréciez pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler de peinture. Vous nous direz à nouveau que ce terme de baroque n'est pas très utile, même s'il désigne une période, si on est très habitué à son usage. On l'est peut-être un petit peu moins à propos de la peinture que nous ne le sommes à propos de la musique ou de l'architecture. Mais vous allez nous proposer aujourd'hui une introduction à la question de la peinture dite baroque. Peinture, monde, univers, très complexe, profus, et dans lequel vous allez nous aider à nous repérer.
Dans le cadre de cette série d'émissions, je vais surtout parler de ce que j'ai d'ailleurs déjà fait pour l'architecture. J'ai parlé de la peinture française du XVIIe. Et on voit très bien que les catégories essentiellement wolfiniennes, enfin du XIXe, j'ai déjà expliqué ça au fil des émissions, ne sont pas opérantes. Wolfflin, pour mention, je rappelle, historien de l'art de la fin du XIXe, grand historien, parce qu'au fond, l'histoire de l'art au sens moderne du terme, elle existe avant, parce que le premier historien de l'art, d'une certaine façon, c'est Vasari qui fait sa vie des peintres, mais au sens où nous, on l'entend, ça vient du XIXe siècle.
Oui, et Wolfflin est l'inventeur du baroque.
Avec les grandes, les grands historiens de l'art, dont Wolfflin en Allemagne. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là et au début du XXe qu'on introduit l'idée du baroque avec ce à quoi les gens pensent habituellement, enfin des formes déliées, des compositions diagonales, le mouvement, comme si tout ça n'existait pas dans la peinture et les autres arts avant. La peinture, encore plus que l'architecture, où je crois l'avoir démontré, avec la personnalité de Mansart, par exemple, dès le début du XVIIe, qui est entre guillemets bien plus classique que baroque. Donc je rappelle aussi aux auditeurs que le terme baroque n'existait pas au XVIIe.
Mais on peut peut-être même rappeler l'étymologie de baroque, vous l'aviez dit, barocco.
Barocco, ça vient du portugais, la perle irrégulière.
Oui, vous nous avez démontré notamment en architecture qu'au contraire, il y avait beaucoup de régularité dans l'architecture de la période dite baroque.
Exactement. Curieux. Alors cette idée d'irrégularité qui correspond au fantasme, ce que moi j'appelle les fantasmes baroques, enfin quelque chose qui serait débridé, donc pas régulé. Oui. Donc j'ai montré dans l'histoire de l'architecture que, en tout cas dans l'histoire de l'architecture française, ça ne tenait pas comme on dit aujourd'hui, mais ça tient encore moins dans la peinture la peinture française a une histoire extrêmement complexe au XVIIe siècle, et c'est ça que je veux introduire aujourd'hui avant d'insister sur les personnalités majeures de la peinture.
Oui, on aura d'autres émissions pour détailler, bien sûr.
Oui, j'introduis là.
Tout à fait.
Et donc où je parlerai de Simon Vouet plus en détail, de Poussin, de Latour, de Lorrain. Alors par parenthèse, en complément de ce que j'ai dit dans l'émission précédente, où on a commencé à parler peinture, Latour au XVIIe siècle n'est pas un peintre français, en tout cas pas à l'origine, puisque il est lorrain. La Lorraine va être annexée en 1623, mais c'est à ce moment-là le duché de Lorraine, avec d'ailleurs une période très brillante. C'est l'époque d'un certain Charles III. Il y a une cour très brillante, très ouverte aux arts, très tournée vers l'Empire et en même temps vers les grands pôles européens, l'Italie, l'Espagne. Ce qui n'empêche pas que les peintres lorrains comme Georges de la Tour, Vouet, Callot, sont connus et appréciés à Paris. Certains d'entre eux, Latour, on n'en sait trop rien, mais certains d'entre eux iront en Italie. Lorrain, non seulement va aller en Italie, mais il va y vivre. Il y a un point commun avec Poussin. Mais bon, la Lorraine, voilà, c'est une entité à part. C'est un centre plus que régional. Et donc, il faut bien voir, c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, que L'histoire de la peinture française, il y a à la fois l'aspect historique, c'est-à-dire en quoi elle se rattache à la peinture qui s'est faite avant en France, en quoi elle se rattache à ce qui se passe à Rome. Et si vous vous souvenez qu'à propos d'architecture, déjà j'avais parlé d'art romain, et je vais continuer à parler d'art romain à propos de la peinture, dans sa complexité, dans sa multiplicité. Alors, aussi.
C'est à ça que tient la complexité de la peinture française du XVIIe, c'est-à-dire cette double, ces deux facteurs, un historique, ça vient d'un passé, et l'autre géographique, ça vient aussi d'autres régions
mais
de l'Europe.
Il y en a d'autres, parce qu'il y a aussi la naissance et l'évolution du marché de l'art, la nature des commanditaires, parce qu'il y a plusieurs sources de commandes. C'est-à-dire que, par exemple, au début du XVIIe, à cause des guerres de religion essentiellement qui vont de 1580 à 1610 à peu près, hein, enfin je simplifie, c'est à peu près l'ambitus de la guerre des guerres de religion, donc ça ruine le pays. Donc de toute façon, il n'y a pas d'argent pour quoi que ce soit, et surtout pas pour commander aux peintres. Et puis il n'y a pas encore un public de collectionneurs. Ça va arriver... Après, puisque justement il y a la reconstruction du royaume, donc il y a l'argent pour faire des commandes, il y a un retour de prospérité, il y a aussi la réaffirmation nécessaire après les guerres de religion de l'importance du pouvoir royal. Donc dans un premier temps, ça va se faire par le biais de Richelieu, qui va donc vouloir que les arts soient aussi associés comme moyen de rayonnement du pouvoir politique,
Déjà de la communication.
Voilà,
politique.
Richelieu non seulement est un politique avisé, qui donc a, en termes modernes, on dirait une volonté de communication dont là l'art va lui servir d'ailleurs justement à communiquer, mais en même temps. Il devient collectionneur lui-même. C'est un grand collectionneur. Il va laisser une collection considérable à sa mort. Et du coup, bien entendu, l'aristocratie va se mettre à commander la peinture. Et alors là aussi, on voit qu'il y a une évolution. Parce qu'au début, l'aristocratie, la haute bourgeoisie commande de la peinture pour faire comme à l'image du pouvoir. Donc là, on est sous Richelieu. Et donc, à qui va succéder Mazarin et la régence d'Anne d'Autriche? Et cette haute bourgeoisie, cette aristocratie, petit à petit, va commander de la peinture, pas seulement pour s'identifier à la puissance du pouvoir, mais aussi parce qu'il y a un vrai goût qui va naître. Le XVIIe, c'est vraiment l'apparition du marché de l'art et l'apparition de la peinture, plus seulement comme symbole social, ce qu'elle reste quand même, bien entendu, mais aussi source de délectation, de plaisir et de méditation. Et puis, dans les multiples objets de la peinture, il y a évidemment la décoration. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la peinture de cabinet, qu'on pourrait appeler aussi peinture de chevalet, pour faire court, mais disons plutôt, moi je préfère l'expression peinture de cabinet, qui est plus conforme au XVIIe. Donc, la peinture va servir à asseoir son identité sociale, mais aussi à donner du plaisir. Et l'identité sociale et le plaisir vont un peu donner deux types de commandes. L'identité sociale, ça va beaucoup être les commandes de décoration. La peinture comme décoration des intérieurs, aussi bien du pouvoir, ça va venir un petit peu après, mais que des palais, des hôtels particuliers qui se construisent à Paris. Hein, j'en ai un peu parlé dans l'architecture,
oui,
où on va d'ailleurs faire des galeries. Ça, on reprend absolument quelque chose de romain. On fait une galerie dans l'hôtel particulier, mini-version de la future Galerie des Glaces, et donc pour montrer sa magnificence. Et cette galerie, qui a une fonction d'appareil de réception, elle est évidemment richement décorée avec des lambris, des stucs et des médaillons, ou même des fois de grands panneaux décoratifs. Le plus souvent la peinture, parce qu'il y a aussi les sources d'inspiration sur lesquelles il faut revenir, la peinture, plutôt de la peinture d'histoire, je vais y revenir tout à l'heure en définissant les genres, en expliquant ce que c'est que la peinture d'histoire, qui est vraiment le genre majeur au début du XVIIe. Et là aussi, ça évolue parce que petit à petit, on va passer de la peinture d'histoire au portrait, à la nature morte, qui au début sont considérés comme des gens inférieurs à la peinture d'histoire. Et donc, il y a un vrai goût, donc une vraie évolution aussi des commanditaires. Hein. Tout en conservant les premiers fondements, c'est-à-dire aussi le prestige, la collection. Donc, il se trouve que de surcroît, dans la foulée du Concile de Trente, qui réaffirme l'importance des images en réaction au protestantisme qui les bannit, le rôle de l'image tel qu'il est défini au Concile de Trente, il y a peu de prescriptions artistiques. On exagère beaucoup le côté. Le Concile de Trente, du point de vue artistique, n'est pas un carcan. De toute façon, vous connaissez la formule célèbre de la contrainte naît la liberté. Hein, mais de toute façon, ça n'est pas un carcan parce que quand on lit le compte rendu du Concile de Trente, on voit très bien que l'art n'est pas. Les sujets sur l'art sont très peu développés. Ce qui compte, c'est les images. Et donc, ce que va véhiculer l'image avec la valeur, ça ne doit évidemment pas être l'image idolâtre, c'est l'image édificatrice. Alors, c'est pour ça qu'on va peindre des portraits de saints, on va peindre. Donc, ça va avoir une importance aussi dans l'histoire de la peinture, puisque on est dans un grand siècle. On parle même d'école française de spiritualité au XVIIe siècle. On est dans un grand renouveau spirituel au XVIIe siècle avec des tas de grandes figures. Je les cite un peu pêle-mêle, mais François de Sales, Saint Vincent de Paul, Marie Grignon de Montfort, Bossuet, qui est une grande figure spirituelle, quoi qu'on en dise. Il y a toute une série de grandes figures spirituelles et on construit beaucoup de congrégations, de couvents à Paris, lesquelles vont demander, dans la foulée du Concile de Trente, vont passer des commandes aux peintres. Alors là, c'est vraiment des commandes tout à fait précises, hein, des commandes de scènes bibliques, mais plutôt de personnages saints, de saints. Hein. Donc, il va y avoir une énorme source de commandes de ce côté-là pour les peintres. Des peintres comme Vouet, par exemple, on les sait quantité d'œuvres qu'on peut encore voir aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de destruction à la Révolution, malheureusement, mais il y a quand même un certain nombre d'œuvres qui ont été sauvées, même si les couvents ont été démolis. Et on peut les voir au Louvre. Et donc, le pouvoir royal, ou son émanation, les collectionneurs, dont j'ai dit que le goût évoluait, hein, lesquels collectionneurs ont deux demandes, à la fois une demande décorative, mais aussi une demande de peinture de cabinet, et puis il y a la commande religieuse. Et c'est ça qui permet de rendre compte de la multiplicité, de la complexité de la peinture en France au XVIIe.
Alors, une sorte d'âge d'or de la peinture, on va y revenir après une petite pause musicale. Je ne peux pas m'empêcher de faire juste une petite parenthèse, parce que ce que vous évoquez en termes d'importance de l'image, du pouvoir et de l'image, c'est le sujet des prochains rendez-vous de l'histoire au mois d'octobre à Blois. Le thème général des rendez-vous de l'histoire de Blois, ce sera la puissance de l'image. Donc je suppose que toutes ces réflexions, enfin en tout cas on peut le souhaiter, y auront aussi leur place. On reconnaît bien dans votre démarche et dans la dernière synthèse que vous venez juste à l'instant de faire, votre position structuraliste, c'est-à-dire que vous essayez de dégager les facteurs principaux qui permettent de comprendre ce qui se passe à un moment, là, pour le coup, dans le domaine de la peinture, ce que vous nous aviez déjà présenté du point de vue des autres arts et des sciences. Je vais vous demander juste d'introduire la pièce musicale que nous allons écouter à l'instant, puis on reprend là-dessus juste après, oui, sur les courants, les genres plutôt, pardon, de la peinture.
Alors là, on va avoir deux morceaux l'un après l'autre. Alors on est dans un peu avant, on est encore à la Renaissance. Et je tiens beaucoup à ces deux pièces-là parce que non seulement elles sont sublimes musicalement, mais aussi parce que la première pièce est une pièce espagnole d'un grand musicien, Antonio de Cabezón, et je crois notamment dans la littérature, parce qu'on parle toujours de la Renaissance, l'Italie, mais on oublie très largement l'importance de la grande puissance politique de l'époque, l'Espagne, qui a vraiment impressionné l'Europe politiquement, mais aussi artistiquement. Et la musique espagnole est très importante, elle est connue à l'époque dans l'Europe. On trouve d'ailleurs des correspondances dans la musique anglaise, ce qu'on appelle les virginalistes ou la musique élisabéthaine. On trouve aussi des rapprochements avec l'Italie qui sont vraiment les sources nourricières de la musique européenne de l'époque. Et donc la première pièce, c'est une pavane d'Antonio de Cabezón, grand compositeur espagnol, qui est malheureusement pas très connu en France. Et puis la deuxième que je fais suivre pour bien montrer, c'est à peu près la même époque et les liens qu'on peut faire, c'est une pièce de Francesco Lombardo, hein, une gaillarde. Voilà. Alors lui, c'est un compositeur italien.
Alors, juste avant ces deux pièces musicales, vous nous parliez donc des principaux facteurs d'évolution qui ont conditionné cet âge, ce renouveau de la peinture française ou cet âge un peu privilégié.
Oui, et donc il y a vraiment beaucoup d'entrées possibles à une étude de l'histoire de la peinture à ce moment-là. Je viens d'en mentionner plusieurs, je vais encore en évoquer d'autres, qui montrent bien que vraiment les schèmes classiques de baroque ou de classique ne nous apportent rien, alors que par contre, les entrées que j'essaye d'introduire nous apportent énormément. Parce que,
c'est-à-dire que baroque, ça serait descriptif d'une période chronologique, vous essayez de trouver les éléments explicatifs de ce qui se passe à ce moment-là, ce qui est très différent, bien sûr.
Et donc, parmi les autres, évidemment, facteurs importants, donc, j'insiste vraiment sur le fait que, par exemple, dans les collectionneurs privés, par rapport aux collectionneurs officiels, ou commandes religieuses vont vraiment être aussi une source du développement de la peinture profane. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devient très important. Et puis, il y a les personnalités. Évidemment, il y a des personnalités qui émergent, qui sont au carrefour de toutes ces influences que je vais continuer à mentionner, mais qui en même temps ont une telle force qu'elles en font quelque chose de personnel qui à son tour va influencer leurs contemporains. Hein, voilà, ça c'est vraiment important. Je mentionne par l'importance, puisque j'ai parlé de Richelieu, on fait revenir de Rome Simon Vouet, puisque dans la première moitié du XVIIe, l'autre facteur explicatif, mais c'est tout ça ensemble. Hein. Autre facteur explicatif, c'est que les peintres français au début du XVIIe vont tous à Rome d'une certaine façon pour apprendre leur métier. Certains d'entre eux reviennent. Alors Vouet, il est rappelé 1627 ou 1628, un an près, je ne suis plus sûr de la date, mais en tout cas c'est à ce moment-là, parce que justement... À Rome, il a déjà acquis une grande notoriété. Il est même président de la Guilde des peintres. Enfin bon, donc... on le fait venir pour que, justement, affirmer cette volonté de communication. C'est exactement le Jacques Pilant de l'époque, les Richelieu. Et donc... on va d'ailleurs faire revenir de Rome, alors ça va tourner court, parce que de toute façon Poussin va avoir qu'une envie, c'est de retourner à Rome. On va faire revenir Poussin de Rome en 1640. D'ailleurs, le roi va dire que voilà Poussin bien attrapé, voilà Vouet bien attrapé, parce qu'il avait commencé à avoir une grande réputation. Et on le fait venir pour un projet décoratif, et c'est aussi pour ça que ça prend pas, ça marche pas. On le fait venir pour décorer la galerie d'Apollon au Louvre, pas l'actuelle, parce que l'actuelle a été reconstruite après un grand incendie. Donc il reste quasiment rien des décorations de la première galerie d'Apollon, hein, mais qui était exactement au même emplacement que la galerie d'Apollon actuelle. Donc Poussin finit par retourner en Italie. N'empêche que Poussin et Vouet vont exercer une forte influence sur la peinture de leur époque. Poussin, de manière encore plus forte et un peu plus tardive. Donc, il y a les individualités, mais il y a aussi la géographie. Il y a des écoles régionales. Enfin, il faut être très prudent sur le terme d'école. Mais il y a des centres comme, par exemple, Rouen, Lyon, Marseille... qui eux-mêmes ont leur propre tropisme. Il y a le Languedoc, par exemple, Lyon, la Provence, le Languedoc, qui sont très fortement attirés par l'Italie. Paris, de par sa position géographique, est à mi-chemin entre les Flandres, donc la peinture flamande, et l'Italie. D'ailleurs, on va avoir le séjour, par exemple, de l'Italien Gentileschi, et puis en même temps, le séjour de Rubens, d'autant plus que Catherine de Médicis le fait venir pour décorer le Luxembourg. Donc, ce qui montre bien, si ma mémoire est bonne, c'est 1621. Ce qui montre bien, d'ailleurs, ce que j'ai déjà dit dans la dernière émission, c'est que la peinture, en fait, est classée à l'époque en quatre grands genres. Je les rappelle, l'histoire, donc c'est la Bible, l'histoire, la mythologie, l'histoire politique, les grandes batailles. En dessous, le portrait. En dessous...
Les portraits qui sont souvent des portraits de commande, du reste.
La nature morte, les scènes de genre. Hein.
Alors, dites-nous, les scènes de genre, une petite précision.
Et donc, en France, pour des raisons qu'on ne peut pas détailler maintenant, en tout cas, on est obligé de faire venir de l'extérieur des peintres qui ont l'envergure nécessaire et surtout la formation pour faire de la peinture d'histoire. Il n'y a pas de peintre français, je crois avoir raconté, François Ier qui fait venir le Primatis et Rousseau pour la galerie, hein, ce qu'on appelait la première école Bellefontaine. Et puis, dans un deuxième temps, alors là, il y a des peintres français, la deuxième école Bellefontaine, des peintres comme Toussaint Dubreuil, Martin Fréminet. Et ça aussi, ça va avoir une influence dans l'histoire de la peinture, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une peinture maniériste qui va beaucoup influencer les débuts de la peinture au XVIIe en France.
C'est pour ça que souvent, on place le maniérisme comme le mouvement qui précède le baroque, mais c'est pas quelque chose qui vous intéresse comme.
Non, parce que par contre, le maniérisme, ça a un vrai sens. D'abord parce qu'on en a parlé à l'époque, c'est Vasari, je le développerai. On peut parler des peintres maniéristes qui ont justement influencé, d'ailleurs aussi bien en Italie. Je crois que j'avais dit qu'il y avait une réaction. Hein, on revient au classique. C'est vrai pour l'architecture, mais c'est vrai pour la peinture aussi. Les frères Carrache, leur modèle, ils repensent à Raphaël. Ils sautent par-dessus ce qui les a précédés. Hein.
Le lien avec l'école Bellefontaine et puis ce dont vous nous avez parlé précédemment, enfin les grands peintres dont vous nous avez parlé, comme Vouet, Poussin, c'est de quelle nature ?
C'est-à-dire que y a un courant, là aussi vous voyez c'est compliqué parce qu'il y a un courant maniériste et donc avec les peintres que je viens de mentionner, mentionner aussi Varin qui sont vraiment les grands peintres du début, tout début du 17e à Paris avec l'Allemand chez qui d'ailleurs Champagne va travailler. Et en Lorraine, il y a un peintre, alors qui est moins connu du grand public, mais qui s'appelle Jacques de Bellange, qui a fait de la peinture, qui a fait des dessins rehaussés de couleurs, qui a fait des costumes aussi. Et c'est vraiment l'exacerbation du réel. Hein, voilà. Et ça va marquer vraiment ce qui se passe en peinture à Paris au tout début du 17e. Et la rupture, c'est peut-être un bien gros mot, mais le changement de perspective va se faire parce que justement, c'est le moment où ces peintres-là ne sont pas allés en Italie. Hein, mais par contre, les autres peintres qui vont arriver vont aller en Italie. Parce que justement, ça aperçoit que pour la peinture d'histoire, on n'est pas formé, il n'y a pas d'endroit où vraiment se former en France. Il n'y a pas de grand atelier formateur comme va être l'atelier de Vouet, par exemple. Hein. Donc, tous ces peintres-là vont en Italie et là, ils apprennent un solide métier. Ce qui fait qu'à partir de 1640, les peintres vont moins aller en Italie. Parce qu'il y a des grands ateliers à Paris où on peut se former. Et puis, il y a la création de l'Académie de peinture en 1648. Donc, c'est sous la régence d'Anne d'Autriche. C'est un amateur d'art qui s'appelle Chamozo. Enfin bon, ça, c'est un conseiller d'État qui plaide pour la création de l'Académie de peinture, dont l'un des rôles sera justement la formation. Alors ça va être un peu laborieux les débuts, mais il va y avoir des cours de dessin, de peinture enseignés à l'Académie royale de peinture.
Hein. D'accord. Alors on reviendra abondamment sur l'Académie de peinture et sur les grands peintres que vous avez déjà évoqués.
Et sur la géographie, parce que j'ai pas beaucoup parlé de la géographie là.
Lors de la prochaine émission, pour conclure celle-ci, vous nous proposez une nouvelle pièce musicale française cette fois.
Oui, alors c'est parce que le goût pour les instruments a évolué au fil du temps. Il y a eu un peu successivement d'abord une grande vogue pour le luth, instrument très très difficile à jouer, ce qui explique peut-être que d'autres instruments ont pris de la place. Puis parce qu'il y a là aussi les figures, les compositeurs, après ça a été la viole et puis ensuite le clavecin. Et donc, les passerelles entre la musique de luth et la musique de clavecin sont extrêmement nombreuses. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Perrine, qui a transcrit des pièces de luth pour le clavecin. Et donc, voilà, c'est une pièce qui est inspirée, donc transcrite d'un musicien, d'un luthiste éminent qui s'appelle le Vieux Gautier. Et c'est ça qu'on va entendre.
Merci beaucoup.